Je vais vous inviter à faire différentes lectures plutôt que d'avoir un long discours. On va faire des lectures dans la parole de Dieu. On va commencer. Je vous le dire. Et nous allons avoir en fait concernant le baptême de l'Esprit une approche comme si c'était une découverte. Quand est-ce que pour la première fois, il est question de l'Esprit dans la parole de Dieu. On fait comme si c'était une découverte. Hein?
À la création.
À la création, en effet. Et donc, on le lit dans le livre de la Genèse. J'ai noté tout un tas de références, mais qui sont un petit peu comme une progression dans la lecture de la parole de Dieu. Voilà. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 2, il est dit « La terre était informe et vide ». Et il y avait des ténèbres. À la surface de la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et nous savons, pour le moment, que Dieu est Esprit et que l'Esprit de Dieu manifeste une des personnes, comme on le dit, de la Trinité. Dieu est Père, Fils et Esprit. Et dès le départ, dans le livre de la Genèse, on voit l'Esprit présent qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est pour dire que le baptême de l'Esprit et la vie de l'Esprit n'est pas quelque chose qui arrive à un moment donné dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'histoire et dans la vie chrétienne, mais c'est dès le départ. Ce qui va se passer, c'est tout simplement une progression dans le domaine de la vie de l'Esprit et de la vie spirituelle. Alors dès le départ, l'Esprit de Dieu est là, et ça c'est important de le noter. Quand on va dans le deuxième livre de Samuel, par exemple au chapitre 23, il est dit ceci, parole de David, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Et on réalise bien que dans l'Ancien Testament, non seulement l'Esprit de Dieu était au-dessus, mais l'Esprit de Dieu commençait à agir dans la vie des hommes. Et par exemple avec le roi David, puisqu'il le dit en se l'appropriant, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, sa parole est sur ma langue. » Et cet homme était conscient qu'à certains moments de sa vie, c'est Dieu qui, par son esprit, parlait. Et c'est important d'être conscient de cela, qu'à certains moments de notre vie, ce que nous pensons, ce que nous disons, ne vient pas de nous. Et donc, va venir de Dieu, et on va rentrer dans cette dimension-là de la vie de l'esprit, en communion avec Dieu. On dira de Daniel, il a en lui l'esprit des dieux saints, parce que les gens ne savaient pas. Il n'y avait qu'un seul Dieu, qui est Père, Fils et Esprit. Mais par contre, ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient réalisé, c'est que cet homme parlait non pas comme les autres. Cet homme avait la connaissance des choses et ça ne pouvait pas venir de lui. Il avait donc, à leur appréciation, l'Esprit des dieux saints. Dans le livre du prophète Michée, chapitre 3, verset 8, il est dit « Mais moi, je suis rempli de l'Esprit ». C'est important de regarder cela. Je vous invite à faire la lecture dans le livre de Michée, chapitre 3 et verset 8. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Et on le voit, c'est même donc une constante, et comme on dit, c'est une vérité transverse. Dans l'Ancien Testament, la présence de l'Esprit, qui dès le départ est au-dessus, et dès que des hommes et des femmes ouvrent leur cœur, va pouvoir agir au travers d'eux et leur donner sa pensée, la pensée de Dieu, et leur donner des paroles de Dieu. Et il y aura des paroles de connaissance, et il y aura des paroles de sagesse, il y aura des paroles de révélation, il y aura des paroles de jugement, il y aura des paroles de justice que ces hommes et ces femmes vont manifester de la part de Dieu. On revient au roi David, et à un moment donné, quand il aura commis cette faute terrible de l'adultère et du meurtre de Uri le Héthien et l'adultère avec Bathsheba, et que le prophète Nathan viendra lui parler de la part de Dieu, il va s'écrier dans sa repentance, et c'est mentionné au psaume 51, « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Alors jusqu'où ces hommes étaient conscients qu'il y avait en eux quelque chose qui venait de Dieu? On ne le sait pas, puisqu'on n'a pas vécu dans ce temps-là. Mais ce que nous pouvons réaliser, c'est que pour nous aujourd'hui, il en est de même. et nous allons vivre les mêmes choses qu'il vivait et plus. Et c'est là que l'on va aller vers une dimension plus grande de la vie de l'esprit. Puisque déjà, ces hommes et ces femmes vivaient dans la vie de l'esprit. Ils avaient une communion avec Dieu qui les amenait à des conclusions. Moi, je suis rempli de l'esprit, et ce n'est pas par prétention, mais il en est convaincu. À cette conclusion, l'esprit de l'Éternel parle par moi. Et là aussi, ils avaient pris conscience que ça ne venait pas d'eux. Et le roi David est en train de réaliser une chose, c'est qu'à cause du péché, l'Esprit de Dieu pourrait se retirer de lui. Et il prie, ne me retire pas ton Esprit Saint. Voilà. Deux dernières lectures dans Ézéchiel. Il est dit ceci, lorsqu'Ézéchiel est l'objet d'une révélation qui est quand même forte, au chapitre 2, verset 2, il est dit ceci, « Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Et là, Ézéchiel va être l'objet d'une mission et d'un message que Dieu va lui donner. Mais au préalable, l'Esprit de Dieu est entré en lui. Donc, le baptême de l'Esprit dont on va parler dans un moment et que l'on va découvrir particulièrement dans le livre des Actes, n'est pas arrivé comme cela. Il n'y avait pas rien avant, et d'un seul coup, quelque chose venant de Dieu par l'Esprit. Tout dans la parole de Dieu arrive de manière progressive. Tout se met en place et va arriver à un point culminant. Et le baptême de l'Esprit, et la vie de l'Esprit aujourd'hui au sein de l'Église et dans la vie des croyants, c'est le point culminant que Dieu voulait atteindre. Et une des dernières paroles de l'Ancien Testament, c'est cette fameuse parole du prophète Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et pourquoi je dis que ce sont les dernières paroles? C'est parce que ce sont les dernières paroles de la vie, par rapport à la vie de l'esprit, d'une dimension. La dimension, elle était plutôt individuelle. Elle était plutôt locale. L'esprit de Dieu agissait dans la vie de l'un, dans la vie de l'autre, mais on ne voit pas une dimension universelle. Il y a une dimension individuelle et une dimension locale. Et au travers de ce prophète, parmi ces derniers prophètes, Dieu est en train d'annoncer que la dimension sera universelle. Mais personne ne sait quand et personne ne sait comment. Ce qu'ils savaient, tous les Juifs, et du temps de Jésus aussi, ce qu'ils savaient, c'est que l'Esprit de Dieu agissait, parlait au travers des prophètes, au travers du roi David, au travers des psalmistes. Mais ils ne savaient pas ce que le Seigneur, lui, voulait donner comme dimension supplémentaire. Voilà. Alors maintenant, on va dans le Nouveau Testament. Et là, on va faire les lectures les unes après les autres. Nous sommes le jour du baptême de Jésus. Et c'est pour cela que j'ai voulu commencer à partir de la Genèse. C'est pour faire le lien avec ce qui se passe au moment où Jésus est baptisé. Dans Luc chapitre 3, verset 21, c'est repris également dans Matthieu, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et pour moi, je le vois comme cela, je me dis, au temps de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au temps de l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu pouvait agir, parler au travers de certains hommes. Et maintenant que Jésus vient et qu'il commence, parce que c'est le début du ministère, l'Esprit de Dieu descend. Déjà, avant même la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descend et descend sur la vie de Jésus pour mettre le sceau sur ce ministère qui va être manifesté. Et lorsque le Seigneur Jésus remplira son ministère, il y aura l'action de l'Esprit de Dieu dans les cœurs. C'est une collaboration. J'allais employer un autre terme, binôme, mais c'est impropre. Mais c'est un ensemble. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Et il y a avec l'Esprit de Dieu. Et qui vont manifester la parole de Dieu. Et Jésus va manifester la parole puisqu'il a la parole faite chair. Et en Jésus et au travers de Jésus, il y a la parole et déjà il y a l'Esprit. On est dans la finalité de l'œuvre de Dieu. La parole est manifestée, l'Esprit est déjà en train d'agir et de convaincre les cœurs quand la parole est annoncée. On va dans l'évangile de Jean, chapitre 7, et à un moment donné, pendant son ministère, Jésus va marquer un temps, non pas un temps d'arrêt, mais un temps comme une étape. Lui, il sait de quoi son ministère doit être fait sur ces 3 années. Il sait de quelle manière ça commence en instituant le baptême. Il sait de quelle manière ça va se terminer à la croix. Et il sait très bien, un petit peu comme un agenda qui est déjà programmé, non pas à notre appréciation, à notre connaissance, mais à la connaissance de Dieu. Et arrive le moment où maintenant il doit dire ce qu'il dit, parlant de la vie de l'Esprit, dans Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Car l'Esprit n'était pas encore, j'avais sauté une ligne, pardon, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et le Seigneur a voulu marquer un temps qui déclenche un calendrier et qui va se manifester dans une dimension le jour de la Pentecôte. Maintenant, il est nécessaire dans la maison de Dieu, le dernier jour, le grand jour de la fête, de déclarer, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Pour interpeller les hommes, pour faire le lien avec les prophéties de l'Ancienne Alliance, pour faire le lien avec la volonté de Dieu manifestée en dernier lieu, au travers du prophète Joël, qui voulait, dans les derniers temps, répandre son esprit sur toute chair. Autrement dit, le Seigneur n'est pas allé jusqu'à la croix et parler ensuite de l'esprit, mais avant même la croix, il en parle. Parce que l'onction de l'esprit va être intimement liée, et on ne peut pas les séparer, au pardon des péchés. Et la dimension pleine de la vie de l'esprit en nous doit avoir comme préalable le pardon des péchés. Et les choses vont dans cet ordre-là, dans l'œuvre que le Seigneur a établie. Personne n'y avait pensé. Personne ne le concevait comme cela. Certains, on est à l'époque du baptême, essayaient de faire quelque chose pour être propre. Et le Seigneur va donner une autre dimension au baptême. Certains aspiraient après une communion avec Dieu plus grande. Et ils essayaient de se purifier, de faire des efforts. Et à partir de ce que le Seigneur établit, il ouvre la porte à une autre dimension, celle où c'est l'Esprit de Dieu qui va venir au plus profond de nous-mêmes. Et juste après la résurrection, Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, nous sommes le premier jour de la semaine, c'est la résurrection. Et là aussi, comme on dit, le timing a son importance. Jésus va se manifester à eux pendant 40 jours. Il va dire une chose le premier jour, il va dire la même chose le dernier jour. Le premier jour de la semaine, Marie se rendit au sépulcre, etc. Des choses se passent, on arrive au verset 19, le soir de ce jour. Qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Il faut essayer de se mettre dans le contexte. Vendredi, on est dimanche, premier jour de la semaine. Vendredi, à 9h du matin, le Seigneur est crucifié. Troisième heure du jour. À 15h de l'après-midi, il parle et puis il rend l'esprit. Il est mis dans le tombeau, le samedi se passe, le premier jour de la semaine, c'est la résurrection. Dans quel état d'esprit sont les disciples? Il n'y en a qu'un qui est resté jusqu'au bout, c'est Jean. Pierre avait renié, plus personne n'est là, il reste juste quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et Jean. Vendredi soir, il n'y a plus personne. Non seulement plus personne présent, mais plus personne en bon état. Le samedi se passe, le dimanche arrive, et ils sont encore ensemble. Mais dans quel état d'esprit? Dans quel état de cœur? Et le Seigneur vient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains, il leur montra son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et quelque chose est en train de se passer en eux. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » On aurait tous attendu d'autres paroles de la part du Seigneur, mais ce sont celles-là qu'il va donner. Parce que lui, il maîtrise les choses, il sait ce qui est important, quelles sont les priorités dans l'œuvre de Dieu qu'il vient de réaliser. Et il n'attend pas la compréhension de ces hommes et de ces femmes. Il n'attend pas qu'ils se ressaisissent, parce qu'ils sont en train de se ressaisir. Il leur donne le premier élément, la paix soit avec vous. Et il le répète, la paix soit avec vous. Ils sont dans la joie et de suite le Seigneur donne le signal de l'œuvre de Dieu. Le point de départ de la deuxième étape de l'œuvre de Dieu après la croix, c'est l'annonce du message du salut à l'humanité. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Comme pour dire, et je le vois comme un lien direct, un maillon et le maillon d'après immédiatement attaché, l'œuvre de la croix est accomplie, l'œuvre de l'Esprit arrive immédiatement. Il n'y a rien entre. Immédiatement après l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et nous devons faire ce petit effort de mettre de côté ce que nous avons comme idée personnelle sur la question, ce que nous avons peut-être vécu, et regarder les choses telles qu'elles se sont déroulées. C'est un petit peu, c'est chronologique de toute façon, et le Seigneur n'a perdu aucun temps. Et à partir de là, il va se manifester à eux, il va se montrer à eux pendant 40 jours, et on arrive au 40e jour, dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, et c'est le dernier jour, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il se rappelle cette parole d'il y a 3 ans. Il se rappelle de cette parole intermédiaire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il se rappelle de ces paroles du jeudi soir, lorsque le Seigneur leur a indiqué qu'il ne laisserait pas orphelin, mais qu'il viendrait à eux. C'est dans le développement de l'évangile de Jean. Et la majorité de l'évangile de Jean, c'est le jeudi soir. Beaucoup de choses sont dites le jeudi soir, la veille de la crucifixion. Le jour de la crucifixion, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et le dimanche, dès qu'il retrouve les disciples, il souffle sur eux à recevoir le Saint-Esprit. Je crois que celui qui veut comprendre peut comprendre. Et celui qui discute la parole de Dieu se met dans une position un petit peu difficile, parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui discutent cette dimension-là de la vie de l'Esprit. Mes frères et sœurs, vu sous cet angle, c'est indiscutable. Parce que c'est un angle prioritaire que nous sommes en train de considérer. C'est comme cela que le Seigneur l'a établi, c'est chronologique. Il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à rajouter. Pour lui, c'est de la plus haute importance. Et maintenant, il parle du baptême dans le Saint-Esprit. Et eux, qu'est-ce qu'ils connaissent en termes de baptême? Rien d'autre que le baptême d'eau. Rien d'autre que le baptême d'eau. Plongé en lui, dans sa vie, dans cette mort dans laquelle il est rentré et dans cette résurrection qu'il a instaurée pour nous, eh bien, il leur parle du baptême de l'Esprit. Il y a toujours du décalage entre ce que le Seigneur dit et nous. Et parfois, le décalage est abyssal. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Je me dis, j'aurais répondu, mais vous avez écouté ce que je viens de vous dire? Je vous parle d'une chose, vous me répondez avec une autre. Ou vous me questionnez avec une autre. Et il y aura toujours du décalage entre ce que le Seigneur nous dit et le point où nous nous en sommes rendus. Mais ça ne fait rien. Celui qui mène, c'est lui. Celui qui dirige, c'est lui. Et il n'attend pas que l'on comprenne. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on avance. Parce que si vous voulez faire avancer quelqu'un, que vous attendez tout le temps qu'il comprenne avant d'aller plus loin, vous allez marcher à son rythme. Or là, il faut marcher au rythme de Dieu. Et le Seigneur dit, après la croix, on ne perd pas de temps, c'est la Pentecôte. Il y a 50 jours, sur les 50, le premier jour, il leur parle de l'Esprit, le 40e jour, il leur parle de l'Esprit, il leur laisse 10 jours. Mes frères et sœurs, bien-aimés, vous avez 10 jours. Pas plus. Pour comprendre ce que le Seigneur dit. Pour vivre ce que le Seigneur dit. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous avez beau le dire d'une manière ou d'une autre, il les reprend quand même. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et il reprend, mais vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, pardon, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, à quoi pensent les disciples? Je n'en sais rien. Puisqu'ils viennent de dire une chose, le Seigneur vient de les reprendre, et il continue et termine. Et j'oserais dire, et il les laisse là. D'autres diront, il les plante. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, Rome galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont plantés, ils sont laissés. Mais c'est immédiat. Un entretien, ils sont complètement à côté. Le Seigneur leur parle d'une chose, eux ils questionnent sur une autre. Il leur dit, c'est pas vous de connaître ça. Et il reprend, il termine et il s'en va. Dans quel état vous vous retournez à Jérusalem? Enfin, nous, je me mets dans le lot. Alors ils retournèrent à Jérusalem. De quoi s'entretenaient-ils? Je n'en sais rien. Quel était leur état d'esprit, de pensée, voire de cœur? Je n'en sais rien. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat, quand ils furent arrivés, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, c'était les uns puis les autres, voilà. Et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et ils priaient. Et moi je pense que le plus simple, parce que de toute façon il n'y a rien d'autre à faire, c'est la seule chose à faire, le plus simple et la seule chose à faire après que le Seigneur ait fini de parler et les dernières paroles sont concernant le Saint-Esprit, vous recevrez Saint-Esprit, une puissance, et vous serez mes témoins. Et il s'en va. Et eux, ils prient. Quelle était leur prière, ou pendant ces 10 jours, quelles étaient leurs prières? Je ne sais pas. La parole ne le mentionne pas. Mais certainement que dans leur prière, ils ont dû dire, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que ce sera? De quoi tu parles vraiment? Aucune indication. Il leur en a donné un peu, mais pas tout. Et dans la vie de l'esprit, ce sera toujours comme ça. Il y aura un peu et pas tout. Parce que le reste est à vivre. Tout simplement. Alors arrive le jour de la Pentecôte. Et ils ne savent pas ce qui va se passer ce jour-là. Mais Dieu l'avait prévu. Il avait prévu du temps du prophète Joël. Le Seigneur l'avait prévu dès le début du ministère de Jésus. L'esprit descend. Et souvent, dans la vie de l'esprit, ce qui se passe, c'est que l'esprit nous amène à revoir certaines étapes dans notre vie, et à se dire, ah mais oui, mais bien sûr, à certains moments de notre vie, mais je comprends maintenant ce que je n'ai pas du tout compris à ce temps-là. Je comprends maintenant ces dernières paroles, misérable que je suis, et ils sont 120, peut-être qu'ils peuvent le dire, misérable que nous sommes. Sur 120, il n'y en a pas un qui a compris. Et s'ils étaient 12, il n'y en a pas un non plus. Il n'y en a pas un qui a compris ce que le Seigneur a voulu dire. Donc, dans la mesure où on ne comprend pas ce que le Seigneur veut dire, il n'y en a pas un qui comprend, ça veut dire que la bénédiction, elle est pour tous. Parce que si elle était pour ceux qui comprennent, il n'y en aurait pas beaucoup. Il n'y en aurait même pas. Donc la bénédiction, elle est pour tous. C'est le jour de la Pentecôte. Ils sont tous ensemble et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Lisez-le. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ah, je comprends pourquoi vous n'ouvrez pas la Bible. Voilà. Et là, je me dis, Seigneur, pourquoi tu as fait du bruit? Pourquoi tu as fait du bruit? Alors, libre cours à mon interprétation des choses. D'abord, il fait du bruit, parce qu'il y a tellement longtemps qu'il l'attend. Tellement longtemps qu'il attend. C'est un petit peu comme nous quand nous lâchons. Mais il y a tellement longtemps que j'attendais ça. Vous ne pouvez pas le dire Il y a tellement longtemps que j'attendais ça. Ça sort avec une certaine intonation, voire une certaine intensité. Il y a tellement longtemps que j'attendais ça. Je vous ai montré que mon esprit était là dès le départ. Je vous ai montré que mon esprit était capable d'entrer dans le cœur de l'homme et de parler et parfois se retirer. Et le roi David va s'écrier, « Ne me retire pas, ton Esprit Saint. » Je vous l'ai dit comme une dernière parole de mes serviteurs, les prophètes. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et j'attendais cela depuis si longtemps. Et l'autre raison, c'est qu'il faut que ça se sache de l'extérieur. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. C'est Dieu qui fait du bruit, ce n'est pas nous. Et dans la vie de l'esprit, s'il doit y avoir du bruit, c'est Dieu qui le fera, ce n'est pas nous. Alors j'ouvre une parenthèse. Dans certaines églises dans le monde, par ici ça ne s'est jamais produit forcément, mais dans certaines églises dans le monde, sous apparemment ou selon ce que disent les personnes, l'onction de l'esprit, ils se mettent à faire du bruit, voire des bruits bizarres. Moi je dis dès le départ, niet. Non. Pourquoi? Parce que s'il doit y avoir du bruit, c'est Dieu qui le fait. C'est pas nous. Et vous l'avez peut-être entendu, et ça a circulé dans le monde, et ça continue de tourner encore, certaines personnes manifestant même des bruits d'animaux, mais on n'est pas dans un lieu de folie. Et des personnes qui rentreraient nous taxeraient de fous à juste raison. Celui qui est sous l'onction de l'esprit a un comportement normal. Parce que Dieu est normal. Le bruit qui est là, ce n'est pas eux qui le font. Ni avec des bruits de voix, ni avec des bruits d'attitude particulière, le bruit c'est du ciel. Dieu du ciel fait du bruit. Il attire la foule. Et la foule, qu'est-ce qu'elle va entendre, elle? Le bruit c'est d'abord celui d'un vent impétueux et rien d'autre. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et moi je me dis, mais là il y a tout, ça ne sert à rien d'écrire des livres, et pour ceux qui courent après des expériences, et bien ils se trompent en cherchant d'autres expériences que celle-là, se trouver dans la présence de Dieu, si des choses doivent se passer, c'est Dieu qui les fera. Mais dans ma vie, ce qui va se passer, ce sont des choses normales, parce que Dieu respecte la personne qu'il a créée. Puisque d'en plus, il nous a créé à son image. Jusqu'à présent, on n'a pas vu la manifestation de Dieu se faire sous forme insensée, sous forme irrespectueuse, sous forme complètement décalée. Dieu, et là je réouvre la parenthèse de tout à l'heure, Dieu qui a créé les animaux ne parle jamais en rugissant, ou en faisant le bruit de la poule, ou d'autres bruits comme cela qu'on a pu entendre par endroits. Ça ne vient absolument pas de Dieu. Quand Dieu parle, il parle avec des langues humaines pour que nous on comprenne. Et quand l'Esprit parle, il parle parfois avec des langues spirituelles et il y aura une interprétation. Mais il n'y a pas de bruit d'animaux, il n'y a pas de bruit bizarre. Dieu ne se comporte pas de cette manière-là. Alors, je referme la parenthèse. Concrètement, vu de l'extérieur et de l'intérieur, parce qu'eux sont à l'intérieur, mais les gens qui vont être attirés, eux, sont à l'extérieur. De l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et rien de plus. Et à l'intérieur, ce qui se passe, c'est qu'après eux avoir entendu le bruit, ils voient des langues semblables à des langues de feu qui apparaissent séparées les unes des autres, se posent sur chacun. Et là, on est dans la dimension de la vie de l'esprit d'aujourd'hui. À partir de ce moment-là, la dimension de la vie de l'esprit que Dieu a voulu donner, c'est une dimension individuelle. Chacun va pouvoir être rempli de l'Esprit. Et pas quelques prophètes, et pas quelques hommes de Dieu ou femmes de Dieu, mais tous les croyants, les 120 qui sont là, ils auraient été plus, il y en aurait eu plus, ils auraient été moins, c'était pareil. Chacun est rempli de l'Esprit. Et ils se mettent à parler. Moi souvent je vous l'ai dit, mais de toute façon on ne peut pas dire autre chose. Ils parlent. Ils ne crient pas, ils ne chuchotent pas, ils parlent. Mais quoi de plus normal que de parler, puisque Dieu nous a donné ce don, cette faculté de parler. Et bien maintenant, cette faculté de parler, moi je le dis comme ça avec mes mots, il va l'utiliser pour lui. Enfin, ces hommes et ces femmes vont pouvoir me parler, sans limite. Parfois, en priant, j'arrive pas à dire ce que je voudrais dire, ce que je ressens, c'est fini. Enfin, ces hommes et ces femmes vont pouvoir me parler, et ça va être profond. Puisque l'onction de l'esprit va nous amener même à intercéder par des soupirs, et nous exprimer par des soupirs inexprimables devant Dieu, quand on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Mais c'est extraordinaire la dimension dans laquelle Dieu a voulu nous introduire et nous plonger. Jusque-là, vu sous un autre angle, il y avait une retenue, voire même une frustration, entre ce que Dieu attendait et ce que nous manifestait. C'est un petit peu le décalage qu'il peut y avoir entre des tout-petits et des gens adultes. Alors les gens adultes se réjouissent d'entendre les tout-petits parler. Mais s'il y a 30 ans, ils continuent à parler comme ça, il y a un problème. C'est sûr, il y a un problème. Mais au-delà du problème, il y a une frustration. Mais moi, j'attends autre chose de ta part. Et combien ce serait regrettable de nous limiter à avoir avec Dieu toujours le même niveau. C'est-à-dire un niveau petit et bas pour nous, alors qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour nous élever dans la communion spirituelle. Comment pourrions-nous dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que je peux rentrer dans ta présence, nous approcher du trône de la grâce dans le lieu très saint, et parler avec nos 4,5 mots habituels. C'est regrettable, Dieu attend d'autres choses. Quand vous avez des choses profondes à dire à quelqu'un, vous y pensez, puis vous trouvez les mots qu'il faut. Vous vous préparez, on rencontre Dieu, et on ne peut pas y aller avec notre vocabulaire habituel. Alors nous, on baisse les niveaux, comprenez ce que je veux dire, ce n'est pas méprisant. Mais on a même écrit la Bible avec les 3000 mots les plus communs, pour que les personnes qui ont un vocabulaire limité puissent être au bénéfice de la parole de Dieu. Mais vu sous un autre angle, on baisse le niveau, parce que ça s'adresse, et c'est normal, à des populations dont ce n'est pas la langue maternelle, le français. Alors on baisse le niveau, et c'est même pas la Bible en français courant, c'est en langage fondamental. Voilà, c'est ça, je ne trouvais pas le mot. En langage fondamental, mais c'est extraordinaire d'avoir fait cet exercice-là pour amener la parole de Dieu en français, en compréhension pour tout le monde qui a un niveau qui est petit. Mais ça ne peut être que le point de départ. Quand on s'approche du Seigneur, notre niveau, il va l'augmenter. Notre niveau, il va le relever. Et j'ai prié au début dans ma vie chrétienne à un certain niveau. Maintenant, je prie à un autre niveau. Ce n'est pas prétentieux, mais je fais des progrès, j'ai avancé. J'ai compris les choses de Dieu, mais j'étais à un certain niveau. Et maintenant, je les comprends mieux. Et je pense qu'il me reste encore des niveaux à atteindre. Et dans la vie de l'esprit, c'est pareil. Le Seigneur veut m'amener dans d'autres niveaux, dans d'autres dimensions, où je vais pouvoir passer du temps avec le Seigneur qui ne se mesurera plus autrement qu'en intensité. Pas en minutes, mais en intensité. Seigneur, j'étais près de toi. Alors chacun le dira avec ses mots, être près du cœur de Dieu, etc. Peu importe les mots, mais ça veut dire qu'on est allé beaucoup plus loin que jusqu'à présent. Et le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce jour-là, ils priaient. Ils avaient même dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc on a tout à apprendre. Et la vie de l'esprit se découvre et s'apprend. Selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Alors certains discutent sur cette expérience-là. Est-ce que c'est ça le baptême dans le Saint-Esprit? À partir de là, est-ce qu'on peut le signifier de cette manière-là ou pas? Bon, écoutez, se libère de tout. Voilà ce qui s'est passé. Alors quand ça se passera comme cela dans la vie de chaque croyant, après on discutera à savoir si c'est le signe initial, si c'est pas le signe initial. Mais à quoi ça sert de discuter avant? Puisqu'avant on l'a pas vécu. Avant on le sait pas. Et moi ce qui m'agace, c'est de discuter de cela avec des personnes qui l'ont jamais vécu. Ben, on parle pas le même langage. C'est pas ce que j'ai vécu. Alors venez pas me dire que c'est pas ça. Et moi, par respect, je vous dis pas que vous êtes dans l'erreur. Mais je vous dis, vous l'avez pas vécu. Vivez-le, après on en reparle. Le Seigneur n'a jamais parlé de signe initial, de rien du tout. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Et certains croyants, ils sont nombreux aujourd'hui dans le monde, disent, mais moi j'ai l'Esprit de Dieu en moi, ben heureusement. Merci Seigneur. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Mais il a annoncé autre chose. Il a voulu autre chose. Il nous a, attirés vers autre chose. Allons-y. Rentrons-y. Vivons-le. Alors c'est vrai qu'il y a une part qui nous dépassera toujours. Celle-là qui est gênante. c'est qu'ils se mettent à parler. Comme ils sont 120, ça s'entend. Dieu a fait du bruit, a attiré la foule. Maintenant, la foule entend. Et la foule les entend parler des merveilles de Dieu. Et moi, je crois que c'est la première des choses qui se passent dans la vie de l'esprit. C'est qu'on va commencer non pas à parler de nous, ni à parler des uns, ni des autres. Mais on ne va pas commencer à parler de lui. Et ce serait peut-être bien d'arriver enfin à parler de lui. Seigneur, ce que tu es pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Mon langage français est limité, mais le langage de l'esprit ne l'est pas. Et l'apôtre Paul nous dira qu'il y a les langues des hommes et il y a les langues des anges. Il y a de la marge. Il y a de la marge pour parler le langage de Dieu et dire ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Ceux qui entendent de l'extérieur ne comprendront jamais. Ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres, etc. Et Pierre, quand il prend la parole, il a compris parce que l'Esprit de Dieu est en lui et lui fait comprendre, c'est ça que disait le prophète Joël. C'est de cela dont Jésus a parlé il y a 10 jours. C'est de cela dont Jésus a parlé il y a 50 jours, premier jour des 40 pendant lesquels il s'est présenté à eux. C'est de cela qu'il a parlé quand le soir, le dernier jour de la fête, il a dit « Si quelqu'un a soif, viens à moi ». Et Pierre revoit tout. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène à comprendre tout. Tout ce qu'il a entendu de la part de Jésus, tout ce qu'il a vécu avec lui. Et puis, l'amène à comprendre maintenant les paroles de l'Ancien Testament. Et l'Esprit de Dieu veut nous amener à la compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'il prend de ce qui est à lui et il nous l'annonce. Alors, on continue. Ils se mettent à parler en d'autres langues des merveilles de Dieu. Et Pierre va leur dire à la foule qui s'approche après avoir entendu ce discours, verset 37, et qui a le cœur vivement touché, il dira Pierre aux autres apôtres, « Que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il a compris. Et maintenant, Pierre relit les deux. Le pardon des péchés, le don du Saint-Esprit. Intimement liés, et pas séparés. Intimement liés. Quand il va être dirigé chez Corneille, quand il arrive au point où il parle du pardon des péchés, le Seigneur n'attend même pas. Et l'Esprit de Dieu descend. Et ces hommes et ces femmes se mettent à parler en langue des merveilles de Dieu. Il y en a deux qui sont surpris là, Pierre et Corneille. Pierre, parce qu'il ne s'attendait pas à ça chez des païens, il reconnaît ce qui s'est passé pour eux le jour de la Pentecôte. Et Corneille, parce que personne ne lui a jamais parlé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais on était en train de prier le Seigneur de tout notre cœur, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et on s'est mis à parler dans d'autres langues, on s'est arrêté. On a senti que c'était bon, que ça faisait du bien, alors on a continué. Je vous renvoie au témoignage de M. Beauvert, qui a vécu cela avec sa femme, tout seul chez lui, et après ils ont lu la Bible en disant, ah, mais c'est ça. Mais c'est extraordinaire de le vivre comme ça. Parfois, on complique les choses alors qu'elles sont simples. Et l'apôtre Paul arrive, et on va terminer avec la déclaration magistrale de l'apôtre Paul, qui va dire ceci au chapitre 14 de 1 Corinthiens. Il va dire, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, et surtout à celui de prophétie. Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel. Et moi je me dis, eh bien voilà le package, pour employer les expressions d'aujourd'hui. Pardon des péchés, l'onction de l'esprit, et tout se manifeste dans l'amour. L'amour de Dieu pour lui, et l'amour de son œuvre. Et là, le Seigneur nous dit, eh bien, vous êtes en train de réaliser que cette dimension de la vie de l'esprit, elle est vaste. D'abord, elle nous introduit dans une relation plus vaste avec Dieu, et elle nous introduit dans le service de Dieu. Et on va apporter aux autres ce que des prophètes par endroit ont manifesté dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, c'est universel. N'importe lequel d'entre nous, n'importe lequel des 120, en l'occurrence c'était Pierre, ça aurait pu être un autre, va pouvoir se lever et parler de la part du Seigneur. Et la parole va toucher les cœurs. Et Paul va aller beaucoup plus loin parce qu'il découvre tout le reste de la vie de l'Esprit qui vient après. Et il dit, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et personne ne le comprend, c'est un esprit qu'il dit des mystères. Et c'est quelque chose d'extraordinaire dans lequel le Seigneur veut nous diriger, nous désire que nous entrions. Verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Il s'agit des dons spirituels. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Et le Seigneur veut que nous le servions dans le domaine de la vie, de l'esprit. Et Paul dira, petite parenthèse, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Et pour qu'on comprenne le cadre dans lequel ça se passe, il dit, mais dans l'église, alors on comprend qu'il parle de en dehors de l'église. Ou, on ne sait pas, dans sa maison, dans sa chambre, ou dans la campagne, peu importe. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Mais en dehors de l'église, sous-entendu, je parle en langue plus que vous tous. Et mes frères et sœurs, dans la mesure où l'œuvre de Dieu s'est faite par la parole, que la lumière soit et la lumière fut, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Je suis convaincu que cette onction dans laquelle le Seigneur veut nous faire entrer va au-delà d'une certaine expérience, nous amène à permettre à Dieu, au travers de cette parole, et c'est le seul moyen, mais il est tellement simple, il est tellement efficace et tellement facile, au travers de cette parole, Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu relève. Quand quelqu'un m'a apporté une parole de Dieu, ça m'a fait un bien. Et Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Vous comprenez le reste? Celui qui parle en langue, aujourd'hui on peut faire un petit parallèle, mais ça s'arrêtera là parce qu'il est vraiment très petit le parallèle avec le langage informatique. Aujourd'hui, en tapant certains messages, certains codes, on arrive à arranger. On arrive à reconditionner. Et peut-être même à gérer certaines opérations, parce qu'on utilise le langage qui correspond à cette technique et qui amène du soin, qui amène du règlement à des difficultés, etc. C'est qu'un parallèle, il est très très léger, très très loin de tout contenir, mais celui qui parle en langue, c'est une action de la parole, et c'est Dieu qui, en nous faisant parler à lui, et on ne sait pas ce qu'on dit, donc du coup il n'y a aucune limite dans ce sens où il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'empêchement. On dit les choses qu'on n'a jamais pu dire, parce qu'on ne trouve peut-être même pas les mots pour les dire. Et là on les dit, et là ça s'exprime. Et là il y a une guérison qui se manifeste. Moi je suis convaincu que celui qui parle en langue, il s'auto-guérit, il s'auto-restaure, parce qu'il permet à Dieu de le faire. Et il devient, dans la vie avec Dieu, quelqu'un qui s'épanouit, qui s'épanouit. J'ai jamais vu quelqu'un qui parlait en langue abondamment, mais dans le sens biblique du terme et équilibré du terme, eh bien, ne pas s'épanouir. C'est incompatible. C'est pas possible. Par contre, j'en ai vu qui cherchaient juste l'expérience. Alors cela, ça va pas durer longtemps dans cet état. À un moment donné, le Seigneur va les reprendre et ils vont se planter eux-mêmes. Mais tous les autres qui ont progressé dans la vie de l'esprit, vous êtes au contact d'un homme comme l'apôtre Paul, il ne dit rien, il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais vous savez que derrière c'est profond, derrière c'est intense. Et quand il vous parle, et c'est quelques paroles de la part de Dieu, mais ces paroles le font un bien incroyable. Voilà. Et c'est ça la vie de l'esprit. C'est ça le baptême de l'esprit. Et quand est-ce que le Seigneur l'a voulu? Je termine, c'est de suite, après le pardon des péchés. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. De suite après le pardon des péchés. Si ce n'est pas ce que nous avons vécu, eh bien c'est que nous avons décalé ce que le Seigneur veut faire. Et c'est peut-être le moment de revenir le positionner au bon endroit. De suite. De suite. Tout le reste viendra après. Et j'oserais même dire que quand la repentance et la conversion est bien posée et que le baptême de l'Esprit est bien posé, c'est même plus la peine de parler du reste. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Dans quelle décision est-ce que je dois prendre? Ça y est, je le sais, je suis en communion avec Dieu. Alors, je ne veux pas hypothéquer ce qu'on va dire dans les autres fois où on se rencontrera, ou des questions précises seront posées, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que dès le départ, elles peuvent être, les réponses peuvent être obtenues dans la communion avec Dieu. Et le Seigneur a raison en voulant, dès le départ, nous amener dans une communion profonde avec lui. Que son nom soit béni. Je vais m'arrêter et on va prendre un temps comme cela devant le Seigneur. Voilà. Et que ceux qui ont été déjà baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien, prient et parlent en langue et parlent à Dieu. Que ceux qui ne l'ont pas encore été, eh bien, disent, Seigneur, eh bien, moi je le veux, tu l'as promis. C'est aussi simple que ça, et c'est sans distinction de personne. Alors je veux le vivre, ou je veux le revivre. Mais dans tous les cas, Seigneur, je ne veux pas rester comme ça, à simplement lire des choses que je ne vis pas.